Radio Okapi. Journal présenté par Jacques-Yves Molima.
Allégations d'exploitation et d'abus sexuels pendant la riposte contre la 10e épidémie de la maladie à virus Ebola en Ituri et au Nord Kivu. La commission mise en place par l'OMS a rendu ses conclusions. Des femmes ont été victimes de viols et les agents de l'OMS, pour la plupart, en étaient des auteurs. Restrictions sur les manifestations publiques à Kinshasa, la Voix des Sans-Voix VSV s'est dit très préoccupée et s'inquiète du retour des vieilles méthodes et pratiques d'interdiction émaillées de répression. Enfin, Donatien Balekelaï, député national, est notre invité dans cette édition. Il nous parlera de son constat fait sur les réalisations du gouvernement congolais au Kasaï central. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Les conclusions du rapport des enquêtes menées sur des allégations d'exploitation et d'abus sexuels qui auraient été commis dans le cadre de la riposte à la 10e épidémie de la maladie à virus Ebola dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri en RDC ont été rendues publiques. C'était hier lors d'une conférence de presse de l'OMS tenue au siège de l'organisation à Genève. D'après ce rapport, plusieurs femmes ont été victimes de viols et pour la plupart, c'était de la part des agents de l'OMS. D'autres détails de ses conclusions avec Honoré Missenga Kalala.
Les incidents autour desquels des allégations d'exploitation et d'abus sexuels qui avaient été rapportés dans la presse couvrent toute la période de la riposte contre la 10e épidémie de la maladie à virus Ebola au Nord Kivu et en Ituri, soit d'août 2018 à fin juin 2020. La plupart de ces abus auraient été commis au cours de 2019 selon les enquêteurs de l'OMS qui ont recensé au moins 80 incidents dans les principales zones de riposte, notamment à Mangina, Beni, Butembo, Komanda et Mambasa. La majorité des victimes qui ont témoigné auprès de l'équipe d'enquêteurs étaient des femmes, 63 au total, dont la fourchette d'âge oscillait entre 13 et 43 ans au moment des faits. 9 de ces femmes ont déclaré avoir été violées. De l'autre côté, l'équipe d'investigation a pu obtenir l'identité des auteurs présumés, dont elle a établi avec exactitude que 21 d'entre eux étaient des employés de l'OMS. Parmi ces auteurs présumés se trouvent aussi bien des ressortissants congolais que des étrangers.
Notons qu'une commission indépendante mise en place par le directeur général de l'Agence mondiale de la santé, Tedros Ghebreyesus, est chargée d'investiguer sur ces allégations. Puisque nous parlons de l'Organisation mondiale de la santé, sachez que cette structure et ses partenaires ont lancé hier mardi la toute première feuille de route mondiale pour vaincre la méningite à l'horizon 2030. Cette maladie, le plus souvent d'origine virale ou bactérienne, fait chaque année près de 250 000 morts, notamment en Afrique subsaharienne. La dernière flambée épidémique date, c'est dans la province de la Tchopo en RDC. Au moins 261 personnes sont touchées avec 129 décès selon l'OMS. D'autres détails sur la stratégie de l'OMS avec vous Alain Irung.
En s'appuyant sur le déploiement des vaccins efficaces déjà disponibles ou en développement, l'OMS a pour objectif d'éliminer d'ici à 2030 ces épidémies de méningite d'origine bactérienne, de diviser par deux le nombre des cas et de réduire de 70% les décès. La stratégie de l'OMS est de s'attaquer en premier lieu aux méningites bactériennes aiguës, les plus dangereuses, qui sont causées par quatre bactéries. Ces pathogènes ont en effet été à eux seuls responsables en 2019 de plus de la moitié des décès par méningite recensée dans le monde. Mais la vaccination ne peut pas tout régler. L'Agence internationale insiste sur la nécessité d'un renforcement du diagnostic rapide et de l'accès au traitement pour les patients, d'une meilleure surveillance épidémiologique pour détecter les cas et orienter les efforts de prévention et de lutte, ainsi que d'un meilleur suivi des patients et de leurs séquelles, la maladie conduisant dans 20% des cas à un handicap à long terme. Le cinquième et dernier pilier de la stratégie porte quant à lui sur la sensibilisation des populations, la responsabilisation des acteurs dans la mise en œuvre des plans nationaux et l'affirmation du droit à la prévention, aux soins et aux services de suivi.
Et puis, persistance de la grève des professionnels de santé, non médecins décrétés depuis le mois d'août dernier en RDC. À Bandundouville, le chef de la province du Kwilu, le syndicat des cadres du secteur de la santé, SINCAS, et l'Union nationale des infirmiers et infirmières du Congo, UNIC, attribuent les conséquences fâcheuses résultant de cette grève aux autorités du pays. Dans une interview accordée à Radio Kapi hier mardi, ces deux structures déplorent ce qu'ils appellent la mauvaise volonté politique de ces dirigeants qui restent insensibles et indifférents face à ces dégâts. Ils en appellent à une bonne volonté politique afin que la grève soit levée pour le bien de la population. C'est l'AG Séverin Mbunga du 5As qui l'a dit au micro de Irène Mbouma.
Ce mouvement de grève des professionnels de santé, non médecins à travers le pays, qui continue jusqu'à ce jour suite à la mauvaise volonté politique de nos dirigeants dans ce pays. Je ne sais pas si les autorités tant nationales que provinciales arrivent à évaluer les dégâts ou dommages collatéraux causés par cette grève des professionnels de santé, non médecins. Parmi ces dégâts, nous pouvons citer le nombre de décès maternels et infantiles enregistrés depuis le début de ce mouvement de grève. La proportion des enfants incomplètement vaccinés depuis le mois de juin 2021 à nos jours. Le nombre de femmes insuffisamment vaccinées contre le tétanos. La proportion des indicateurs clés de soins de santé primaire. Personne ne se glorifie à compter le nombre de décès maternels ou infantiles dû principalement à cette grève. Je pense que la grève ici venait de causer beaucoup de tort au pays. On devrait mettre fin à ce mouvement de grève s'il y a une bonne volonté politique.
Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs, l'ONG La Voix des Sans Voix pour le droit de l'homme, VSV, s'est dit vivement préoccupée et s'inquiète du retour des vieilles méthodes et pratiques d'interdiction émaillées de répression des manifestations publiques. Dans un communiqué publié hier mardi, cette structure condamne la décision prise par le gouverneur de la ville, Gentiny Ngobila, interdisant les marches dans les tronçons allant du pont Matete jusqu'à l'aéroport d'Ndjili. D'après la VSV, l'hôtel de ville ferait mieux de réfléchir sur les stratégies et mesures appropriées pour un encadrement efficace des manifestations publiques pacifiques à Kinshasa, en lieu et place d'une interdiction anticonstitutionnelle qui risquerait de placer un jour la RDC au rang des États non respectueux des droits et libertés fondamentales ainsi que des valeurs démocratiques, poursuit le même communiqué. D'autres détails avec vous, Vicky Odia.
Dans ce communiqué, la Voix des Sans Voix s'interroge. Pourquoi les autorités congolaises commencent-elles à abandonner les bonnes pratiques avec lesquelles le chef de l'État a commencé son pouvoir et pourquoi la résurgence de répression ainsi que la restriction des manifestations publiques pacifiques maintenant? Où va-t-on en arriver au moment où beaucoup d'espoir naissait après l'alternance politique pacifique? Par ailleurs, la Voix des Sans Voix pour les droits de l'homme demande au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur d'intervenir pour que l'hôtel des villes de Kinshasa lève la mesure d'interdiction de manifestations publiques pacifiques sur les trajets allant de l'aéroport international d'Ndjili au pont Matete, de privilégier les voies et moyens susceptibles de permettre aux forces de l'ordre et de sécurité de mieux encadrer les manifestations publiques pacifiques, à l'instar de celles prévues ce mercredi 29 septembre 2021 par la coalition Lamuka en vue d'éviter toute forme de violence, de dérapage et autres bavures telles qu'enregistrées dernièrement, conclut les communiqués.
Notons que la marche de la coalition Lamuka prévue pour ce mercredi 29 septembre à Kinshasa pour dire non notamment à la politisation de la CENI est reportée au 16 octobre prochain. Cette décision a été prise à l'issue de la séance de travail d'hier mardi entre le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila, et la délégation de la coalition de l'opposition Lamuka. Cette information est confirmée par Maître Blanchard Mongomba, secrétaire général du parti Nouvel Élan de l'ancien premier ministre Adolphe Mouzito. Le communiqué final qui a sanctionné cette séance de travail a souligné que toutes les marches ont été reportées pour des raisons de sécurité. Cependant, Constant Mutamba de Nojek a lui affirmé dans une vidéo sur les réseaux sociaux qu'il maintient sa marche. Autre nouvelle, plus de 2000 personnes déplacées occupent des salles de classe de trois écoles de Mungwalu, cité minière située à 85 km de Bunia. Une présence qui inquiète les autorités scolaires à moins d'une semaine de la rentrée des classes. Le bourgmestre de cette commune rurale sollicite l'appui de la hiérarchie ainsi que des humanitaires en vue de relocaliser ces déplacés. Ces derniers ont fui les zones de combat où opèrent des miliciens de la Codeco. Si rien n'est fait, redoute le bourgmestre, la rentrée scolaire risque d'être difficile. Jean-Pierre Bissilissende, joint par Jean-Claude Loki.
Depuis qu'il y avait l'attaque de Itende le 17 août 2021, avec les attaques qui ont suivi par après, l'ICI, Kilo, les environs de Kilo. Tous les déplacés qui ont fui ces attaques-là se sont dirigés à Mongwal. Ils ont équipé au moins 3 écoles. Or, dans une semaine, l'école va reprendre. Les directeurs d'école sont en train de nous coincer. Ils nous demandent de délocaliser ces déplacés. Ils sont plus ou moins 2000 dans ces écoles-là. Où est-ce que nous allons les placer? Ça nous pose un problème, nous sommes pris au dépourvu. C'est vrai que c'est la responsabilité de l'État congolais que nous sommes. Nous en avons déjà fait part à nos hiérarchies. Ils sont en train de se préparer, les préparatifs sont même très avancés. Mais en attendant, nous lançons un cri d'alarme auprès de nos partenaires, les humanitaires, qui ont dans leurs attributions justement la gestion des déplacés, qui nous viennent d'abord le plus rapidement possible en aide, en sorte que nous puissions délocaliser ces déplacés pour que l'école puisse reprendre la semaine prochaine.
Et puis, l'UNESCO plaide pour un budget conséquent de l'éducation pour la gratuité. Au cours d'une rencontre ce mardi avec Modeste Baati-Lukwebo, président du Sénat, le représentant pays de l'UNESCO a annoncé la tenue en novembre prochain à Kinshasa d'un dialogue de haut niveau sur les questions liées à la gratuité de l'enseignement des bases. Pour le représentant pays de l'UNESCO, ces assises seront une occasion de sensibiliser les partenaires à voter un budget conséquent en faveur de l'éducation nationale. C'est en vue d'une bonne mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base qui nécessite plus de moyens pour un enseignement de qualité. Jean-Pierre Ilbodo est au micro de Michel Kifindangoy.
Nous sommes venus rappeler au président du Sénat les engagements de Mme Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO, qu'elle a eu à prendre le 15 octobre 2020. Ces engagements portent sur la planification de la gratuité sur 5 ans. Ces engagements doivent faire l'objet d'un dialogue de haut niveau que nous souhaiterions organiser avec tous les sénateurs et les députés pour que vraiment nous puissions discuter des questions liées à cette gratuité. Nous cherchons surtout à faire en sorte que les sénateurs et les députés soient sensibilisés sur les moyens qu'il faut pour cette gratuité, parce que ça demande beaucoup de moyens. Nous avons le problème d'accès. Nous avons des classes qui sont jusqu'à 100 élèves. Il faudrait peut-être construire plus de classes. Pas peut-être, mais sûrement. La question de la qualité. Et là, c'est le deuxième engagement de la directrice générale, la formation des enseignants. Nous pensons qu'il faudrait aussi organiser une sorte de levée de fonds avec des champions économiques du secteur privé qui voudraient donc contribuer à ce qu'on ait plus de moyens pour que la gratuité puisse aboutir.
Notez que Modeste Baati-Lukwebo a salué et soutenu cette initiative qui va dans le sens de la vision du chef de l'État qui veut que chaque enfant congolais ait accès à un enseignement de qualité. Puisque nous parlons de l'enseignement, préparatif de la rentrée scolaire prochaine, au Maniema, les chefs d'établissement du primaire et du secondaire des écoles méthodistes venus des 7 territoires de 7 provinces, plus la ville de Kindu, ont participé hier à une journée de réflexion organisée par l'évêque de l'église méthodiste unie du Congo-Est. Cette journée avait pour objectif d'analyser leur arsenal juridique afin d'évaluer les actions menées ainsi que les perspectives, a dit Monseigneur Gabriel Undayemba. Il est au micro de Florence Kizalunga.
Notre action éducative dans ce monde troublé mérite une attention particulière, sinon une réflexion profonde avec cette dépravation des mœurs qui devient un mode de vie chez nos élèves, car l'avenir de notre Église en particulier et de notre pays en général en dépend. Au cours de cette journée, je vous convie à réfléchir sur les rôles d'un chef d'établissement des écoles conventionnées protestantes desservies par la 81e communauté méthodiste unie au Congo-Est face à la vision « Lèvons-nous et bâtissons ». Chacun doit se regarder dans le miroir pour s'évaluer par rapport à son travail au regard de tous les textes légaux qui régissent l'enseignement en République démocratique du Congo et au sein des écoles conventionnées protestantes communautés méthodistes unies.
Autre nouvelle, on revient ici à Kinshasa, c'est depuis lundi que les associations paysannes, les politiques et les chercheurs œuvrant dans le secteur de l'agriculture participent aux états généraux de l'agriculture convoqués par le gouvernement congolais avec comme thème l'agriculture clé de la croissance économique durable et de la réduction de la pauvreté en République démocratique du Congo. Quelles sont les aspirations des participants à l'issue de ces assises? Le gouvernement congolais doit mettre des moyens financiers à la disposition position des agriculteurs. Il est aussi souhaitable que l'on crée des coopératives agricoles au profit des fermiers, selon les quelques personnes interviewées au cours de ces assises, suivant leur réaction au micro de Tati Mapoukou.
J'aimerais que le gouvernement puisse mettre des moyens financiers à disposition des agriculteurs. Parce que le plus souvent, les engins agricoles entre les tracteurs se retrouvent entre les mains des ministres, alors que le petit peuple qui fait l'agriculture cherche des tracteurs pour pouvoir labourer. Ils n'en trouvent pas. Par exemple, si vous allez dans le plateau de Bateke, à Mbakana, moi j'y vais presque toutes les semaines, les gens manquent des tracteurs pour pouvoir labourer.
On a besoin d'avoir des caisses de crédits agricoles. On ne peut pas développer l'agriculture sans crédits agricoles. Ça, nous demandons au gouvernement et on espère très bien parce qu'on a suivi le discours du chef du gouvernement, il en a parlé.
J'ai vu le président de la République parler, assurer effectivement et que l'agriculture sera la victoire du sol
sur les sous-sols.
Je pense qu'il ne va pas l'oublier. On a tous son mandat.
Actualité internationale.
Une attaque attribuée aux djihadistes a endeuillé ce mardi l'armée malienne sur le tronçon vital Bamako-Kayes à l'ouest du Mali. C'est un convoi d'une entreprise minière sécurisée par les forces armées maliennes qui a été attaqué par les djihadistes. 5 gendarmes maliens ont été tués et d'autres blessés. L'armée malienne affirme avoir de son côté neutralisé 4 djihadistes.
L'invité.
Le député national donatien Balé Kelaï est notre invité dans cette édition du journal. Il fait partie de la mission parlementaire qui évalue au Kassai central les projets d'appui financés par le gouvernement central pour la province. Cet élu du peuple s'exprime sur ce qu'il a constaté sur terrain par rapport aux réalisations. Le député national donatien Balé Kelaï s'entretient ici avec François Kadima. Suivez.
Donatien Balé Kelaï, bonjour.
Bonjour.
Député national dans une mission au Kassai central pour évaluer certains projets. Quels sont ces projets?
Nous sommes venus évaluer les projets d'appui financier du gouvernement central pour le compte de la province du Kassai central. Nous travaillons sur le projet Tchilegelou. Nous travaillons sur les PDU, c'est-à-dire le programme de développement urbain avec l'OVD. Nous travaillons aussi avec l'Office des routes, en rapport avec le financement FONER. Nous travaillons aussi avec le gouvernorat en ce qui concerne les frais d'investissement. Nous jetons un coup d'œil aussi au Fonds social de la République, au projet PRISE. Et en même temps aussi, nous jetons un coup d'œil au fonctionnement de la régie des eaux et de la SNEL.
Déjà, vous avez passé quelques jours à Kananga. Une petite lecture de la situation en province.
Je dois avouer que, considérer le pourcentage, on est à moins de 15%. Il faut un tenus pour que les choses marchent. Les financements existent, mais on ne sait plus utiliser à bon escient pour le faire rapidement. Dites-vous, par exemple, monsieur le journaliste, que le gouvernement a envoyé les fonds d'investissement. Ça fait déjà 3 mois et que cet argent n'est pas consommé. Vous estimez qu'à ce moment-là, il faut attendre que les responsables qui sont à Kinshasa, soit de l'Office des routes, de l'OVD ou même du ministère de l'Intérieur, viennent exécuter ça sur place. Là encore, nous avons aussi demandé au bureau de l'Assemblée provinciale de faire quand même le travail. Parce qu'on doit faire le suivi pour contrôler le gouvernement provincial dans ce qu'il est en train de faire comme travail sur terrain.
Fonds pas utilisés ou mal utilisés?
Je peux pas dire mal utilisés, je peux pas dire bien utilisés ou peu utilisés, mais je dois dire quand même que c'est dans la précipitation qu'on nous présente les projets qui sont en train d'être financés. Et là encore, il y a encore l'argent en banque. Comme pour dire, l'argent n'est pas encore utilisé totalement.
C'est dire que le plan n'a pas été bien élaboré pour aller vers les projets d'investissement.
Oui, mais à ce niveau-là, moi je crois qu'il faut quand même qu'on interroge et l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Dans la mesure où, dans le budget 2021, il existe des projets. Et on a même chiffré aussi les frais d'investissement qu'on attendait du gouvernement central. Mais quand ces frais arrivent, qu'est-ce qu'on fait? On exécute ce projet-là. On ne peut pas inventer d'autres projets dont on n'a pas fait les études Et que maintenant, on nous dit, on a financé ceci, on a financé... Mais quand vous financez, prenons, vous financez la construction d'un bâtiment de la province éducationnelle Kassai Central 2, à hauteur de $53,000. Mais entre-temps, c'est un bâtiment de 22 mètres sur 10. Vous estimez que c'est l'argent qui va convenir? Parce qu'il n'y a pas eu d'études préalables. Je crois que à ce niveau-là, on a aussi péché par l'absence d'études préalables et on a laissé les projets qui étaient déjà chiffrés au niveau du budget ou de l'édit budgétaire pour arriver à sortir et rechercher d'autres projets. C'est là qu'on peut parler de l'amateurisme.
Alors, qu'est-ce que vous proposez et vous envisagez? Après, un rapport sera élaboré. Comment on va faire? Est-ce que ceux qui n'ont pas bien exécuté les choses vont être interpellés parce que vous êtes une mission parlementaire?
La mission a commencé à Kinshasa par la collecte des données dans les différents services. Et nous sommes venus à Kananga pour confronter les données par rapport à ce que nous avons eu à Kinshasa. Et nous allons repartir à Kinshasa pour repartir dans ces différents bureaux pour confronter en même temps aussi la réalité que nous avons trouvé sur le terrain. Et à ce moment-là, nous déposerons le rapport au bureau de l'Assemblée avec des recommandations à tous les niveaux. Je crois que ces recommandations seront d'application.
Elles seront d'application comment?
Lorsque nous serons à Kinshasa et que nous nous serons rendus compte que la réalité sur le terrain par rapport à ce qui nous a été présenté au niveau national, il y a un déficit, je crois que la sanction peut être positive et négative à la fin. La plénière de l'Assemblée va se prononcer.
Donatien Balekaï, nous vous disons merci.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.